venu, il est arrivé ce matin depuis Bruxelles, il est à Genève, et je suis vraiment ravi qu'il soit parmi nous pour venir nous parler justement des troubles anxieux. Avant cela, je présente brièvement le Dr Stevens, donc il est psychiatre, psychanalyste à Bruxelles. Il est membre de la cause freudienne, de la New Lacanian School et de l'Association mondiale de psychanalyse. Donc, il est psychanalyste. Il est notamment directeur thérapeutique du Courtil, c'est une institution qui s'occupe notamment d'enfants psychotiques. Enfin, je serais très curieux en tout cas d'en savoir plus tout à l'heure, en discuter avec lui. Il donne régulièrement des conférences de par le monde. Il s'occupe de la section clinique de Bruxelles et il a écrit dans diverses revues psychanalytiques, notamment La cause freudienne, Quarto, La petite girafe, Ornicard et Mental. Voilà, alors je lui cède la parole et encore merci d'être parmi nous.
Merci de... Alors, j'ai peut-être fermé. Hein. Donc merci de ces mots de présentation. Hein. Merci aussi de m'avoir invité. Ce n'est pas la première fois que je viens en Suisse. J'ai le plaisir aujourd'hui d'intervenir ici à Marsens, qui est près de Fribourg, qui est un endroit que j'aime beaucoup, dans lequel je ne suis jamais venu pour travailler, mais que j'aime beaucoup pour mes retours de vacances, Fribourg, parce que c'est une très belle région où vous habitez. Alors, le DSM, qui est donc la méthode statistique diagnostique qui nous vient des États-Unis, ou le CIM, dont le titre complet, c'est la classification statistique internationale des maladies, n'est-ce pas, qui lui vient de l'OMS, sont deux méthodes diagnostiques aujourd'hui répandues dans les services de psychiatrie. Toutes les deux se disent bien statistiques. Quand on les lit d'ailleurs, on voit bien que ces répartitions statistiques, là je prends les troubles anxieux, mais c'est vrai pour la série des autres troubles mentaux qui sont repris, ces descriptions statistiques sont fondées sur une observation statistique de phénomènes. N'est-ce pas ? Ce n'est pas sur une dynamique subjective, c'est sur une simple description phénoménale. C'est-à-dire que cela cherche à gagner en objectivat. J'hésite entre objectivité, je suis prêt à faire un lapsus, entre objectivité et objectivation. Je ne sais pas si ça en gagne en objectivité, mais ça cherche en tout cas à objectiver davantage. C'est-à-dire à pouvoir transmettre l'objet d'une façon plus précise entre les divers praticiens de diverses orientations. Ça peut être un avantage, certes, mais il faut bien voir que c'est avec un inconvénient, c'est la perte de la valeur proprement subjective au sens dynamique du diagnostic. C'est une perte aussi du rapport à la causalité dans le diagnostic. Si j'étais relire là les catégories reprises dans le DSM et le CIM à propos des troubles anxieux, et au fond, plusieurs choses m'ont immédiatement frappé. C'est que l'angoisse, ou les troubles anxieux, parce qu'il est plus question de troubles anxieux que d'angoisse. Après tout, je n'ai pas vérifié, je ne suis pas sûr que le terme angoisse y figure. Ce qui y figure, c'est des troubles anxieux. Le mot d'angoisse n'y figure pas comme tel, n'est-ce pas ? Merci. C'est des troubles anxieux auxquels on peut donner des noms plus particuliers lorsqu'ils sont vifs, ce que nous appelons classiquement l'angoisse. On dit trouble panique, n'est-ce pas ? Pour dire la vivacité du trouble anxieux. Et l'opposer aux anxiétés diffuses. Ce qui m'a frappé en allant relire ça, pour venir vous voir, parce que ça ne fait pas partie de ma lecture habituelle, c'est le côté où les troubles anxieux sont associés à la névrose. Comme ça ne fait pas partie de ma lecture habituelle, j'en suis encore au DSM-3+, le 13e 3R, pardon. Donc il y a peut-être des petites modifications avec le 4. Mais j'ai vérifié aussi dans le CIM, et au fond, dans les deux cas, les troubles anxieux sont associés aux troubles névrotiques. Mais à chaque fois, distinguer partiellement des troubles anxieux à caractère somatoforme, c'est-à-dire du type hypochondriaque, qui sont toujours plus suspects d'être à l'origine, dans les débuts d'une paranoïa. Cependant, ça ne dit rien de la dynamique de ces cas. C'est purement phénoménal et statistique, et à ce titre, je vois mal comment ça peut déboucher sur autre chose que sur une prescription médicamenteuse. Au fond, une fois fixée l'intensité des crises, leur régularité, la logique qui s'en déduit, n'est-ce pas ? Dès lors qu'il n'y a pas là de prise sur la dynamique du sujet, la logique qui s'en déduit, c'est la prescription, disons, de médicaments anxiolytiques, des médicaments à visée anxiolytique, en tout cas, quelle que soit la catégorie que l'on en prenne. Je suis pas opposé aux médicaments. C'est simplement, je pense que ça n'est pas fondamentalement utile dans tous les cas. Par contre, je pense qu'il faut arriver à réduire l'angoisse, et parfois pour ça, il faut en passer par les médicaments. Mais c'est pas mon premier choix. Alors, j'entends dire tout de suite que ce n'est pas ce qui me dérange dans ces méthodes statistiques, n'est pas que les descriptions soient totalement fausses. Elles ne le sont pas. Elles sont même assez justes. N'est-ce pas ? Si vous prenez, par exemple, la première catégorie, c'est ici dans le DSM, n'est-ce pas ? Mais c'est la même, d'ailleurs, qui est reprise dans le CIM. C'est l'agoraphobie. Et là, on distingue. En fait, c'est dans le cadre des troubles paniques. Et vous avez les troubles paniques avec agoraphobie, les troubles paniques sans agoraphobie, et l'agoraphobie sans trouble panique, qui précède du moins, sans antécédent de trouble panique, etc. Puis les autres phobies sociales. Au fond, nous sommes d'accord, ces différentes phobies existent bien dans ces formes phénoménales. Ce qui me frappe très fort là, c'est comment l'angoisse fait partie du symptôme. L'angoisse n'est pas distinguée du symptôme. Du point de vue de la description pathologique, angoisse et symptômes sont considérés sur le même plan. Angoisse, disons anxiété, puisque c'est le mot utilisé là. Or, c'est cela justement qui me paraît être embarrassant. La position du psychanalyste est à l'opposé de cet outil des DSM, donc non pas parce que ce qu'ils décrivent serait inexact du point de vue de la description, mais parce que d'une part ça ne permet pas de saisir une dynamique subjective, et parce que d'autre part, justement, il y a dans la simple observation du phénomène, une mise sur le même pied, une mise en continuité du trouble anxieux et du symptôme. Que vous ayez donc l'agoraphobie avec le trouble panique ou pas, ça n'est pas considéré comme fondamentalement différent, n'est-ce pas ? L'agoraphobie, c'est un supplément, c'est tout. Ça répond aux critères du trouble panique, premièrement, qui sont des critères statistiques, je ne vais pas vous les lire, mais survenus d'au moins 4 des symptômes suivants, etc. Ça répond au trouble panique, avec en plus l'agoraphobie, qui est bien définie, et là je suis d'accord avec cette définition d'ailleurs, comme crainte de se trouver dans des endroits ou des situations d'où il pourrait être difficile ou gênant de s'échapper. Je me disais d'ailleurs en lisant ça, qu'après tout, si j'étais un tant soit peu sujet à des troubles anxieux, là, c'est l'occasion de faire une agoraphobie, parce que je suis bien le seul ici à ne pas pouvoir m'échapper sans que ça se remarque. Outre que je pensais en arrivant que cette disposition de salle qui est très jolie, ça m'a tout de suite beaucoup séduit parce que ça fait très conversation, j'espère qu'on aura une conversation après, laisse quand même en devant de moi un vide, et après tout on sait comment le vide et l'angoisse peuvent avoir aussi des rapports intimes. Mais je veux revenir à cette question de la distinction angoisse et symptôme, parce qu'elle me paraît fondamentale. Freud a sur l'angoisse une théorie qui se modifie au cours de ses développements théoriques. Je ne vais néanmoins pas vous développer l'évolution de l'angoisse dans la théorie de Freud, mais prendre un moment où celle-ci est serrée dans un de ses ouvrages plus tardifs qui est « Inhibition, symptômes et angoisse ». Dans cet ouvrage, Freud distingue clairement les termes. Il les distingue à partir d'un exemple clinique qu'il reprend, qu'il a étudié déjà auparavant, qui est un exemple, l'exemple classique de la phobie infantile, le cas du petit Hans et sa phobie des chevaux. Le cas du petit Hans, donc vous savez que c'est une des 5 études psychanalytiques de Freud, que par ailleurs Freud n'a pas analysé lui-même de façon directe le petit Hans, puisque c'est le père du petit Hans, c'était lui-même un psychanalyste élève de Freud, et c'est le père n'a pas non plus analysé son fils, au sens où il n'a jamais considéré qu'il était l'analyse de son fils, mais le père amenait à Freud le récit les récits que lui faisait Hans. Et Freud interprétait, donnait quelques indications, le père retournait avec ses indications qu'il transmettait d'une manière ou d'une autre à son fils, n'est-ce pas, ou des questions posées. Il y a d'ailleurs des choses extraordinairement formidables là-dedans. Dans cette observation, Freud n'ayant rencontré l'enfant qu'une seule fois. Alors, Freud dit, au fond, chez cet enfant, il y a une angoisse du cheval. Et une angoisse du cheval qui lui rend impossible de sortir, d'aller promener en rue. Eh bien, il faut distinguer les 3 plans. Il n'est pas possible qu'il aille en rue. Ça, ce n'est pas de l'angoisse. Ça, c'est de l'inhibition. De l'inhibition au sens où, au fond, c'est la meilleure des défenses contre l'angoisse. C'est une tentative de solution par rapport à l'angoisse qui est extrêmement efficace. Il évite la situation. N'est-ce pas ? Nous connaissons tous, à l'occasion, des patients qui fonctionnent, qui traitent leur angoisse par l'inhibition. D'ailleurs, la manière, si vous voulez, quand on est un peu angoissé de prendre la parole en public, ce qui arrive à tout le monde d'ailleurs, les premières fois, moi aussi, hein, c'est assez normal d'être un peu inquiet, au fond, dans la prise de parole en public. Et au fond, il y a des personnes qui sont suffisamment inquiètes pour ne jamais prendre la parole en public. Il suffit d'éviter de prendre la parole en public pour ne pas... pour ne pas rencontrer ce point d'angoisse comme tel. C'est du côté de l'inhibition, n'est-ce pas ? L'inhibition, c'est efficace. Ça réduit les facultés, les possibilités, les potentialités du sujet, mais comme barrage contre l'angoisse, c'est évidemment très efficace. Et donc, en n'allant pas en rue, le petit Hans évite l'angoisse. Mais donc, l'inhibition, le côté Hans ne va pas en rue pour ne pas rencontrer le cheval dont il a peur, on voit bien que là, le fait qu'il ne va pas en rue n'est pas un élément de l'angoisse, c'est au contraire un élément de traitement de l'angoisse, comme inhibition de traitement, de mauvais traitement au sens de traitement déficitaire pour le sujet, n'est-ce pas, qui a des effets déficitaires pour le sujet, mais c'est un auto-traitement de l'angoisse. Alors, quel est le symptôme, dit Freud ? Est-ce que c'est, là je le commande de façon un peu libre, hein. Encore je peux le citer aussi, donc il se demande, est-ce que c'est l'angoisse du cheval, donc c'est-à-dire la phobie du cheval, qu'il faut considérer comme le symptôme de cet enfant ? Et Freud dit non, je vous le cite, nous ne pouvons qualifier l'angoisse de cette phobie de symptôme. Parce que ça, c'est pas le symptôme, c'est l'angoisse. Qu'il ait peur du cheval, sa peur, la peur, l'angoisse du cheval, ça, c'est pas le symptôme, c'est de l'angoisse. Quel est alors le symptôme du petit Hans, dit Freud ? Eh bien, c'est le cheval. Si le petit Hans avait peur de son père, ça serait une situation tout à fait normale. Mais, n'ayant pas eu assez peur de son père, il a créé une phobie de substitution. Et cette phobie, c'est la peur du cheval. C'est pas ce qui fait le symptôme. Ce qui fait le symptôme, c'est pas l'angoisse, mais c'est le remplacement dans l'objet de la peur du père par le cheval. J'écrivais une formule métaphorique à la place du père, le cheval. Remarquez que dans les phobies infantiles, c'est toujours en partie comme ça. Je me souviens d'un petit... Alors quand je dis à la place du père, Freud dit là parce qu'il n'avait pas assez peur de son père. Le petit Hans, il faut dire, donc son père, qui était très gentil, apparaissait un peu pâlo quant à la prise de décision. Au fond, disons, pour le dire simplement, ce n'est pas lui qui portait les culottes, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, ce n'est pas l'homme qui imposait la décision. D'ailleurs, Freud a cette... Il y a cette séquence fantastique dans cette observation de phobie du petit Hans. C'est le petit Hans demande à son père, donc c'est le père qui ramène ça à Freud. Le petit Hans demande à son père : est-ce que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur ? Et le père répond : ça, ce n'est pas certain. C'est si Dieu le veut. Alors le petit Hans va demander à sa mère : est-ce qu'on va avoir un petit frère ou une petite sœur ? Et sa mère lui répond non. Alors il dit, mais papa m'a dit, si Dieu le veut. La mère ajoute, oui, mais si je ne le veux pas, Dieu ne le veut pas non plus. C'est assez clair, remarquez. Et au fond, je ramène là ça de mémoire, le texte lui-même est un rien plus subtil que ça, mais c'est tout à fait comme ça quand même. Et au fond, vous avez bien là une fonction de la phobie. C'est de venir se substituer à l'insuffisance de la règle, à l'insuffisance de la loi qui règle les rapports de l'enfant avec sa mère notamment. C'est ce que vous remarquez avec tous les enfants d'ailleurs, à un moment ou l'autre. Je me souviens, moi, je pense à un petit garçon qui avait à l'époque 3-4 ans, c'est dans ces eaux-là, et qui entendait un chien crier au moment d'aller dormir, d'un chien qui était chez le voisin, dans un jardin voisin. Et il avait très peur de ça, au moment d'aller dormir. Et alors, ses parents cherchaient à le rassurer, mais le chien ne pourra pas venir, il y a un mur, etc. Ça ne faisait qu'accentuer sa peur. Il fallait vraiment qu'à un moment, le père dise, écoute, maintenant, maman va dans son lit, et toi, tu restes dans le tien, pour qu'il se calme. Et donc là, on voit, si vous voulez, la fonction de la phobie comme mise à distance de l'autre, comme installation de la loi, à la place du père, le cas échéant. Le père étant donc l'organe, à prendre là comme fonction de la loi, simplement. Et donc, vous voyez ce que je veux souligner déjà à partir de là, c'est la distinction précise chez Freud entre l'angoisse comme ce qui surgit sur le sujet, comme ce qui tombe sur le sujet. On va essayer de préciser qu'est-ce que c'est cette angoisse, cet état anxieux, etc. Comme ce qui tombe sur le sujet, mais distinguer ça de la manière dont le sujet trouve une façon symptomatique de déjà traiter cette angoisse. Trouve des manières à lui, en construisant un symptôme, c'est-à-dire une sorte de compromis, qui à l'occasion peut être souffrant, mais moins inquiétant que l'angoisse. Et au fond, avec le cheval qui remplace le père, vous voyez la simplicité du compromis. Et vous voyez aussi que ce compromis est de l'ordre d'une élaboration, de l'ordre d'une nomination, d'un ordre signifiant, enfin de l'ordre d'une parole qui peut être construite. Quand la phobie ne se construit pas, le sujet reste dans un rapport beaucoup plus brut à l'angoisse. Et à ce propos, je voulais vous parler d'un cas, je vais évoquer plusieurs cas cliniques pour me faire comprendre. À ce propos, je voulais donc vous parler d'un cas clinique que j'ai rencontré au Courtil, justement, qui est cette institution pour enfants psychotiques, enfants, adolescents, mais aujourd'hui un secteur jeunes adultes aussi, ce ne sont pas les mêmes qui passent de l'un à l'autre, enfin, l'institution a grandi. Enfants, adolescents et donc jeunes adultes aussi psychotiques que j'ai fondé dans la région de Lille, mais du côté Belgique. Et donc aujourd'hui j'oriente, mais je suis responsable thérapeutique là, comme vous le disiez en présentation, mais beaucoup de collègues psychanalystes y travaillent avec moi. Et donc il s'agit d'un garçon qui avait accepté de venir à une présentation de malade dans cette institution. Donc je fais quelques fois sur l'année ce qu'on appelle un exercice de présentation de malade, qui est un exercice de psychiatrie classique d'ailleurs, que Lacan a remis en valeur à un moment, qui est au fond la discussion avec un malade, avec un patient, avec un jeune, devant un certain public, notamment une série de personnes de l'institution, mais aussi des gens qui sont inscrits dans les sections cliniques, par exemple, donc des étudiants. Il avait accepté de venir à cette présentation, il avait bien expliqué de quoi il s'agissait, mais quand il arrive, au moment où je le vois, avant d'entrer dans la salle, il marque une très forte réticence. Il me dit qu'il n'a pas envie de venir, qu'il n'a pas envie d'entrer, qui a 20 à 30 personnes, pour lui c'est trop difficile. Alors je connaissais déjà moi l'histoire de ce sujet. L'histoire de ce sujet est tout entière fixée, centrée on peut dire sur un point. C'est sur un moment de sa vie qui se passe quand il a 7-8 ans, il a aujourd'hui 20 ans. C'est le suicide de sa mère par défenestration sous ses yeux. Or, cet événement, dont il fait la cause de tout, rien n'est spécialement fixé de son histoire. Si on lui demande de parler de son histoire, il ne parle que de cet événement-là. Il a d'ailleurs un rapport au temps qui est très perturbé. Ce sujet est psychotique, je peux le dire d'emblée, ça. Il a un rapport au temps qui est très perturbé. Je me souviens d'une anecdote. On lui avait donné rendez-vous en disant, voilà, dans 5 minutes, on va aller faire quelque chose. Et puis, retardé qu'on a été dans la préparation, ou retardé par un coup de fil, je ne sais pas, on est venu le chercher 1 heure après, c'est-à-dire fort en retard. Et il nous a répondu, mais ça ne va pas, on m'avait dit 5 minutes, et là, il n'y en a qu'une de passée. Donc, c'est pas un petit enfant, c'est un sujet de 20 ans, voilà, un certain désarrimage par rapport au temps. Mais au fond, tout ce dont il peut parler reste autour du suicide de sa mère et de toutes les réinterprétations qu'il en donne, à format plus ou moins variable d'ailleurs. Ça n'est pas explicitement très délirant, mais enfin, disons, c'est un peu délirant, au sens où ça flotte, au moins. Sa mère aurait été violée par un oncle. Pourquoi sa mère a sauté par la fenêtre? Elle aurait été violée par un oncle. Elle aurait été violée par un ami du père. C'est le père qui aurait été responsable, qui aurait poussé la mère à se suicider, lui a dit une tante. Enfin, je ne vais pas vous donner plus d'exemples que ça, mais il élabore là autour toute une série de raisons qui se modifient progressivement d'ailleurs, en ne restant stable que quelques jours quand elle ne se modifie pas plus vite. Donc le suicide de sa mère opère comme un point de rupture, comme le surgissement d'un réel, dirais-je, en termes lacaniens. C'est-à-dire quoi, le surgissement d'un réel? C'est simplement comme un traumatisme, disons. Trauma freudien, c'est le premier nom de ce que Lacan appelle le réel. C'est-à-dire, mais il faut s'entendre sur ce que c'est que le trauma. Le traumatisme, non pas comme quelque chose d'épouvantable, non pas comme quelque chose que nous jugerions comme traumatique pour lui, mais le traumatisme comme ce qui est vécu par le sujet comme inassimilable, incompréhensible, impossible à formaliser, impossible à expliciter, n'est-ce pas? Si, c'est d'ailleurs ce qui fait la recherche sans cesse un peu subdélirante, voire tout à fait délirante, de toute la série des raisons pour lesquelles sa mère pourrait s'être suicidée. C'est qu'il n'arrive pas à fermer fermer l'événement qui s'est passé, à boucler l'événement. Ce sujet donc a vu tomber sa mère à 7-8 ans et a été, pourrait-on dire, saisi par cette chute sous son regard. J'ajouterais, c'est lui-même qui en est laissé tomber, n'est-ce pas ? Par sa mère. Il est laissé tomber puisqu'il est abandonné par cette mère qui tombe devant lui. Mais donc tout ça, cette histoire-là, je la savais avant de le rencontrer. Je pensais qu'on allait parler de ça, en effet. Mais donc il me dit, au moment d'entrer, il me dit qu'il ne veut pas entrer parce qu'il a peur du monde, que quand il y a plus de 10 personnes, il évite ça. Il évite de sortir, même 10 c'est déjà beaucoup, plus que 5, me dit-il. J'évite d'y aller, n'est-ce pas ? Il se présente comme agoraphobe. Et il me dit qu'il ne pourra pas parler de cette histoire de sa mère. Alors je lui fais une proposition, je lui dis écoutez, pas de problème, venez et on va parler seulement de votre difficulté à parler, de votre peur de parler devant 20 personnes. Et ça il accepte, ce qui, si vous me permettez, une preuve d'ailleurs qu'il n'est pas tout à fait névrosé, hein, parce qu'au fond ça ne change rien à l'inquiétude d'être devant 30 personnes, le fait de parler de ça. Alors, donc là, la présentation, il m'explique donc ce qui l'angoisse. Parce que donc, il y a cet événement de sa vie, mais il y a une angoisse qui ne cesse pas de le prendre. Et cette angoisse, ce sont les regards. Les regards qui se posent sur lui. C'est vrai donc quand il vient dans une salle comme celle dans laquelle je l'interroge. C'est vrai aussi dans le métro ou dans le bus. Il ne cesse d'être angoissé sous les regards. Et il me dit... Évidemment, je sais bien, parce que il faut que j'ajoute, ce garçon est très grand. Il est grand, fort, c'est un beau garçon, peut-on dire, n'est-ce pas ? Et il me dit, je sais bien que je suis grand. Il est vraiment très grand, hein, et assez fort. Donc je sais bien que je suis grand, et on m'a déjà dit que c'est pour ça qu'on me regardait. Et qu'au fond, on me regarde plutôt, on m'a déjà dit, c'était... admiratif. Mais me dit-il, c'est vrai, mais enfin je me dis qu'un regard, ça peut quand même toujours être méchant. Remarquez qu'il a raison. Hein. Il a raison, mais c'est une formule paranoïaque quand même. Et donc sa réponse à ce réel qui surgit du regard, c'est de s'isoler dans sa chambre. Il me dit qu'il s'isole toujours seul, de façon extrême, avec sa télévision. Il sort juste un peu pour faire quelques courses, il est dans un studio, ou parfois rarement avec un copain ou deux. C'est un isolement très construit. En fait, ce garçon, donc, l'a angoissé et remarqué que la dimension phobique échappe. Il n'arrive pas à construire une phobie. Il est angoissé par les regards, mais il n'arrive pas à nommer ça. Il accepte de venir à la présentation de malade, mais il n'arrive pas à nommer ce qui l'angoisse, autrement que simplement la présence du regard. La présence du regard comme objet qui lui tombe dessus. Il n'a pas peur, il n'a pas de peur du cheval, du loup, etc. N'est-ce pas ? C'est le regard comme tel, qui l'angoisse, la présence du regard des autres. Et au fond, il y a là une phobie qui échoue. Il échoue à construire une phobie, pour le dire autrement. Et en même temps, il échoue à construire une paranoïa, parce qu'on sent bien qu'il pourrait être sur une pente paranoïaque, mais il ne l'interprète pas au-delà de la possibilité que ce soit méchant. Moyennant quoi, il s'isole, il se laisse tomber. Il se laisse tomber seul dans sa chambre. C'est-à-dire que c'est toute une tonalité mélancolique qui survient. Il se plaint de sa solitude. Sa solitude est comme telle ce qui vient en réponse à l'angoisse, mais comme telle ce dont il se plaint. Et donc, à la place même de pouvoir construire là
une phobie ou une interprétation paranoïaque, il devient franchement mélancolique. C'est donc le laisser tomber par sa mère qui lui revient sous cette forme de la peur des regards et qui fait qu'il se laisse lui-même tomber dans une grande solitude. La mère qui est tombée devant ses yeux est le point de regard qui le laisse seul. N'est-ce pas, on voit bien, en l'occurrence, comment cette petite formalisation qu'il fait en présentation de malade est en lien avec la grande scène traumatique de sa vie. Le regard comme effet réel et le laisser tomber du sujet. N'est-ce pas, on a à la fois la chute et le regard qui sont présents et qui sont présents dans cette angoisse. La visée du travail avec lui, ça serait de permettre un travail de traduction de ce qui lui arrive, de permettre de parler non pas de l'événement traumatique, ce dont il parle facilement, mais plutôt de cette dimension même dans laquelle il est pris au moment où surgit les regards des autres. Donc l'angoisse est ici en rapport à une perte radicale, ici la mère. Et le sujet reste en rade avec l'angoisse de la perte qui se renverse sur le sujet lui-même. C'est en ça que ça devient une tonalité mélancolique. C'est que l'angoisse du sujet par rapport à la perte de l'objet se retourne sur le sujet lui-même. Donc chez Freud, l'angoisse est toujours liée à une dimension de perte. C'est pour ça qu'il dit d'ailleurs que l'angoisse est angoisse de castration. Et l'équivalent de l'angoisse de castration du côté féminin, c'est l'angoisse de la perte de l'objet d'amour. Alors Lacan va reformuler ça. L'angoisse est certes toujours liée pour Lacan à une perte, mais sous l'aspect particulier du surgissement de l'objet perdu. Donc le cas ici que dont je viens de vous parler du courtil rend bien compte de ça. L'angoisse surgit quand surgit le regard, ce regard qui s'était fixé au moment de la perte. Ce qui fait que pour Lacan, l'angoisse surgit d'un trop de présence d'un objet, de l'objet en tant que perdu et innommable. C'est en ça que Lacan peut dire, je pense, c'est repris dans l'argument, que l'angoisse est ce qui ne trompe pas, dans la mesure où c'est le seul affect qui ne trompe pas, dans la mesure où les autres trompent, n'est-ce pas, quand on pleure, ça peut être de tristesse ou de joie, etc. L'angoisse est le seul affect qui ne trompe pas parce qu'il désigne un point de réel pour le sujet. Et donc, de ce point de vue-là, l'angoisse sert de guide aussi dans la cure. Quand un sujet est angoissé par quelque chose, c'est précisément le point où pour lui s'est joué un certain réel. Ce réel se montre par le bout de la présence inattendue d'un objet. Et donc vous savez que dans la psychologie classique, à l'occasion, on va définir, on va distinguer la peur et l'angoisse sur le rapport à l'objet. Souvent, on dit que la peur, c'est quand on a peur quand on peut nommer un objet. On est angoissé quand on ne sait pas de quoi, n'est-ce pas, quand il n'y a pas d'objet. Lacan reprend ça, au fond, en situant les choses un peu différemment. Il distingue autrement la peur et l'angoisse. L'angoisse étant elle-même pas sans objet. Certes, dans la peur, il y a un objet, mais ce n'est pas l'objet qui compte pour le sujet. C'est plutôt pris dans une dimension d'inconnu. Lacan prend un exemple d'un texte de Tchekhov qui s'appelle « Frayeur » ou « Peur », si vous voulez, qu'il cite partiellement. N'est-ce pas, il s'agit... Dans ce conte de Tchekhov, il s'agit de sujets qui voient quelque chose d'inexpliqué. N'est-ce pas ? Par exemple, un sujet qui voit au loin un clocher qui apparaît assez proche pourtant pour qu'il puisse en voir les détails. Et il voit alors vaciller par la lucarne un étage élevé de l'endroit, un endroit où on ne peut accéder d'aucune façon, une mystérieuse flamme que rien ne permet d'attribuer à aucun reflet. Et le sujet se met à avoir peur. On peut connaître ces peurs. C'est néanmoins une peur devant l'inexpliqué. C'est une peur devant l'inexpliqué qui ne touche pas le sujet comme tel. À aucun moment le sujet n'est menacé. À aucun moment il ne s'agit de quelque chose qui touche le sujet de près. Il s'agit plutôt donc d'une peur d'un objet extérieur, d'un inconnu. Alors que l'angoisse, elle, concerne un objet intime du sujet. La présence d'un objet du sujet. Je vais vous raconter à ce propos une anecdote qui est arrivée à une de mes analysantes. Une femme qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur, qui vit seule, qui est un jour, un soir, on vient sonner à sa porte d'un appartement à l'étage. C'est un ouvrier qui est là et qui dit « Je viens pour l'ascenseur ». Mais l'ascenseur fonctionne parfaitement. Alors elle le laisse entrer, il s'explique un peu, elle trouve ça quand même assez étrange comme démarche, et puis il s'en va. Une demi-heure après, on sonne de nouveau chez elle. C'est cet homme qui vient lui dire « Écoutez, ce n'est rien, votre ascenseur n'a rien, je me suis trompé d'immeuble, c'est l'ascenseur de l'immeuble à côté ». Et il s'en va. Ça la laisse un peu perplexe, mais pas inquiète. Un peu plus tard, elle est au lit et elle entend un grattement à la porte. Là, elle commence à s'inquiéter. Non, mais il ne faut pas l'imaginer trop non plus. Elle commence à s'inquiéter. Et au fond, elle se lève, elle fait de la lumière, elle fait du bruit, et elle crie « Il y a quelqu'un !» Là-dessus, le grattement s'arrête. Et au fond, elle va se recoucher plutôt rassurée. Jusque-là, un peu, disons, avec une certaine peur, elle a eu là un peu peur, mais pas davantage. Elle est recouchée, et que quelques minutes après, le grattement reprend à sa porte. Alors, là, elle téléphone à la police. Non, mais si vous voulez, jusque-là, c'est de la peur, et elle est prudente, n'est-ce pas? Elle téléphone à la police, et la police vient, et sonne à sa porte. Il fait constater qu'il n'y a personne sur le palier, on a vu rôder personne, mais la police, cherchant d'où peut venir ce bruit, découvre que c'est un rat qui est caché dans le cache-radiateur du palier, qui fait ce bruit. Là, vous voyez, c'est tout à fait rassurant. Eh bien, elle rentre donc chez elle, elle éteint la lumière et elle n'arrive plus à s'endormir. C'est là qu'elle est saisie d'angoisse, n'est-ce pas ? Elle est saisie d'angoisse en se rappelant que son père lui dit toujours « Chez toi, c'est un trou à rats ». N'est-ce pas, pour lui dire à quel point, au fond, elle vit dans le désordre. Et donc, on a là une distinction entre la peur face à l'inconnu, à la menace non subjectivée, non intime en tout cas, à quelque chose qui ne menace pas vraiment le sujet. Elle ne perd pas ses moyens, elle appelle la police. N'est-ce pas ? Ça n'est pas un état anxieux, c'est une peur passagère. Et puis le moment où la menace devient tout à fait irréelle, mais en fait beaucoup plus réelle, c'est quelque chose d'elle là qui la réveille, c'est ce rat, n'est-ce pas ? Ce rat dans toute l'intimité qu'il a entre son père et elle. C'est le reproche du père qui lui revient sous la forme d'angoisse. C'est-à-dire que l'angoisse est le signe, qui ne trompe pas, de la présence de l'objet intime, à l'occasion ignorée du sujet. C'est une présence irruptive, c'est-à-dire qui produit une rupture dans la chaîne, comme irruption d'un réel, c'est-à-dire irruption de quelque chose d'innommable. Ce rat, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas beaucoup le préciser, elle ne peut pas en dire grand-chose. Néanmoins, il est beaucoup plus réel comme... Et à la fois, il n'est pas une menace directe, il est beaucoup plus réel comme présence que le supposé cambrioleur précédent. L'angoisse, c'est donc l'irruption d'un réel comme à la fois quelque chose de pas tout à fait nommable, pas tout à fait possible à reprendre dans une élaboration, et hors image, faisant irruption dans l'image comme inquiétante étrangeté. C'est de l'analyse sur laquelle Freud se fonde pour son étude sur l'angoisse, n'est-ce pas ? C'est le texte du conte d'Hoffmann, l'inquiétante étrangeté, où le regard se trouve lié à la fois au sexe et à la mort.